notre transition numérique, notre smart city,
le logement,
l'énergie, l'habitat,
le rôle majeur des villes,
l'urbanisation, le développement durable,
vivre dans les villes.
Think Cities, le podcast. Retrouvez le résumé de l'actualité urbaine chaque semaine, traité par la rédaction de New Stank Cities.
Bienvenue sur New Stank Cities, le podcast, une nouvelle édition hebdomadaire, tous les lundis, d'un résumé de l'actualité de la semaine précédente à travers nos différents domaines, immobilier, habitat et logement, aménagement, urbanisme et architecture, mobilité, logistique, énergie, environnement, transition. C'est à retrouver sur New Stank Cities pour une lecture plus approfondie, pour de plus amples renseignements. Mais en tout état de cause, pour commencer la semaine bien informé des grandes tendances de la semaine précédente, ce podcast qui est de plus en plus lu, de plus en plus écouté, vous êtes plus de 2000 à suivre ce podcast chaque semaine, donc on est content, on espère que ça va continuer. N'hésitez pas à nous transmettre vos remarques et bientôt il sera accessible sur les plateformes. Un podcast gratuit qui revient sur l'essentiel de l'actualité de la semaine précédente. Et les actualités les plus marquantes, eh bien, elles sont ouvertes aujourd'hui par Montpellier avec un parc urbain de 173 000 m² sur la ZAC Marianne République. Donc ça, c'est avec évidemment Cyril Trétou, architecte associé à l'agence ANMA. Ils reviennent sur le sujet. Tous les détails de cette ZAC hors norme sont à retrouver sur New Stank Cities. On parle de 14 îlots au sud de l'avenue Nina Simone, 2 îlots sur le secteur Cavala d'après l'obtention du concours d'urbanisme pour la conception et le suivi de la ZAC. Les PC, la première partie des permis de construire ont été donc accordé, hein, avec une première livraison pour 2023. C'est assez incroyable sur un projet qui est sur deux sites, 21 hectares, et qui s'étale jusqu'à 2027, date de fin de l'opération. 1800 logements, 28 000 m² de bureaux et de commerce, 1200 m² d'équipements. Donc ça, c'est à retrouver sur New Stank Cities, avec un grand nombre d'opérateurs mobilisés selon la typologie, évidemment, des livraisons, hein, Cyrus Construction, Pegas Immobilier, Kaufmann & Broad. C'est à retrouver sur New Stank Cities. On continue avec cette actualité dense de la semaine dernière, on l'attendait. La cession à 100% de Century 21, pour près de 90 millions d'euros à Arche, la holding du groupe Citia, alors la holding qui regroupe Citia Arche, hein, Guy Hoquet, Réseau La Forêt. Les détails de cette cession, l'état d'esprit constructif et indépendance de la marque sont rappelés aussi dans la communication à cet effet, qui a été financée et réalisée par Arkéa, banque, entreprise et institutionnelle, lecteur de New Stank Cities et que l'on salue. On continue avec évidemment le dépôt au Sénat pour une première lecture à partir du 5 juillet de la loi 4D. Elle était attendue, différenciation, décentralisation, déconcentration, décomplexification, s'adapter aux réalités locales, conforter les compétences des collectivités sur les routes, sur l'énergie, les préfets qui deviendront les référents locaux de l'ADEME, déconcentration notamment avec la facilitation au recours par les collectivités aux capacités d'appui en ingénierie du CEREMA, notamment les préfets de région, je vous le disais, qui seront désormais les délégués territoriaux de l'ADEME, décomplexification avec la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales et des établissements publics de l'État au bénéfice des citoyens. Par exemple, afin d'éviter aux usagers de redonner à plusieurs reprises les mêmes informations à l'administration, les différentes administrations pourront s'échanger plus facilement les données utiles dans un cadre transparent. Alors évidemment, ce texte va être vu comme le véhicule d'un grand nombre de propositions, rattrapage aussi pour un certain nombre de mesures qui ont été tentées pour adoption dans la loi Résilience Climat. On le suit au quotidien, on voit les choses qui sont portées, hein, par le CNCC, la FPI et bien d'autres. C'est à retrouver sur New Stank Cities. Loi Climat, un retour sur le texte par Emmanuel Vargon, sur lequel nous sommes revenus. Il est attendu que nous trouvions un modèle de construction durable, nous dit Emmanuel Vargon. Je rappelle que l'article 49 de la loi Résilience Climat repousse à décret la définition du ZAN et sa mise en place. même s'il s'applique en 2050, le zéro artificialisation nette, avec une étape intermédiaire en 2030. Elle nous dit, la majeure partie des SRADET, les schémas régionaux, ont inscrit cet objectif de réduction dans leurs documents de planification en région. Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Elle voit bien qu'il y a des injonctions contradictoires, mais elle nous dit, Emmanuel Wargon, je ne crois pas qu'on ait trop d'injonctions contradictoires et qu'il n'y ait surtout pas de solution. Pour concilier la lutte contre l'artificialisation des sols et construction de logements, la ministre indique que beaucoup de collectivités territoriales ont déjà adopté des règles de consommation plus économes d'espace. La contrepartie est que là où on peut construire, il faut accepter de construire des logements un peu denses. Si l'on perd des logements, c'est parce qu'on construit à R+3 plutôt qu'à R+5. Il est possible de concilier l'objectif de réduction de consommation des terres naturelles et de construction du logement, donc plutôt la verticalisation. Toujours sur l'environnement, l'énergie, le secteur du logement social est un leader de la transition énergétique. C'est Housing Europe qui nous le rappelle lors du sommet de la rénovation 2021 suivi par New Stank Cities. Notamment avec Julien Dijol, qui est le directeur des politiques pour Housing Europe, que l'on connaît bien. La question cruciale est de savoir si les organismes de logement social auront les moyens de porter leur mission dans la décennie à venir. L'ambition est de rénover 4 millions de logements d'ici à 2030, ce qui représente 10 à 11% des logements de l'Union européenne. Ce que relaie régulièrement l'Union sociale pour les HLM notamment, et de l'habitat social, car seuls 1% des bâtiments bénéficient de rénovation d'efficacité énergétique chaque année, nous dit par exemple Stéphane Moser, chef de l'unité d'efficacité énergétique de la Commission européenne. 75% du stock de bâtiments est inefficace d'un point de vue énergétique, alors que 85 à 95% des bâtiments aujourd'hui seront toujours en usage en 2050. D'ici à 2030, 35 millions de bâtiments peuvent être rénovés. Cela représente 12 à 18 emplois locaux par million d'euros investis. Alors, vous avez aussi dans cette actu, un benchmark, des soutiens à l'innovation énergétique des bâtiments et du logement social en Europe, l'Italie avec l'éco-bonus, l'Allemagne, le programme de rénovation de 2,5 milliards, la Grèce, la Suède, la Finlande avec la prévision d'un programme disponible pour les ménages adoptant des nouvelles solutions technologiques. C'est à retrouver sur New Stank Cities avec le détail aussi du paquet REACT EU 2014-2020 qui prévoyait 3,9 milliards pour les fonds additionnels pour la France dans le programme de cohésion, qui s'élève, je le rappelle, à 16,8 milliards. Mobilisation des fonds européens à retrouver sur New Stank Cities. Innovation et dispositifs en faveur de la mixité sociale, c'est Grenoble Métropole, avec la captation de logements privés à des fins sociales. C'est l'objectif, il est de permettre à Grenoble Métropole et à la direction départemental de l'emploi, du travail et de solidarité, de retenir un opérateur qui va regrouper, ou un groupement d'opérateurs, qui va regrouper l'ensemble des efforts pour prospecter, capter des logements privés à des fins sociales. Donc vous êtes propriétaire privé, il y a de la vacance, on vient vous voir, on sécurise le paiement du loyer, on conventionne et on remet sur le marché social du logement privé. Cette mission de prospection et de captation de logements privés à des fins sociales dans le cadre de la mise en place d'une plateforme territoriale unique avec un guichet unique, c'est à retrouver sur New Stank Cities pour tous les amateurs et professionnels candidats, mais pour tous ceux qui travaillent sur ces questions-là. Technique et économie d'énergie, notamment avec l'ADEME et le CSTB. Je rappelle le partenariat de 2020. L'objectif, c'est la démarche prospective pour préparer l'avenir des bâtiments à l'horizon 2050. Concrètement, on retient le fait que l'objectif est d'établir 22 facteurs clés structurants, l'avenir du bâtiment et de l'immobilier, définir des hypothèses contrastées d'évolution d'ici à 2050, bâtir des scénarios prospectifs en vue d'une publication à l'été 2021, c'est là. Telles sont les trois étapes de la démarche initiée entre le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, et l'ADEME. C'est à retrouver sur New Stank Cities. Enfin, sur cette partie d'innovation et d'évolution de transition, c'est évidemment l'excellent Olivier Estève, directeur général de Covivio, qui revient pour New Stank Cities, tel que nous l'avons traité sur l'évolution de l'immobilier tertiaire. Il nous dit au final, les entreprises consommeront moins de mètres carrés, d'accord. Mais il revient aussi sur cette évolution concrète, l'impact carbone, les parts de lieux collectifs dans ces nouveaux lieux de coworking, les offres de Covivio, l'état de l'avancement de leur projet à Paris. Et on nous parle, en tout cas pour Covivio, de 150 000 mètres carrés de projets potentiels en France. L'option de transformation de bureau en logement fait partie des opportunités pour revaloriser un bâtiment qui arrive en fin de cycle. Quand nous identifions des actifs dans lesquels l'activité économique n'a plus de sens, nous les transformons en logement et les revendons. Plus de 150 000 m² de projets potentiels ont été identifiés en France, dont 3 déjà engagés pour 12 300 m², 44 millions d'euros de coûts de développement et 5 nouveaux engagements totalisant 92 000 m² sont prévus en 2021. C'est passionnant, c'est sur News Tank Cities. Merci à Olivier Estève, le patron de Covivio. Passionnant toujours, ces webinaires, le cycle, les 10 webinaires sur la ville productive, fabrique de l'industrie, le plan urbanisme, construction, architecture et la Caisse des dépôts, tout ça animé et orchestré par le PUCA et sa secrétaire permanente Hélène Peskin, que nous saluons en partenariat avec News Tank Cities. Là, c'était les zones d'activité économique et c'était le 12 mai. La question de l'anticipation foncière est primordiale. Haute de Breuil, DG de l'EPA Sénart, revient sur le sujet. Les études et le travail de recherche-action aussi, qui est porté par Gilles Novarina, professeur d'urbanisme à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble, sont à retrouver aussi. Les zones industrielles ou artisanales, les zones mixtes, le parc technologique de première génération, les plateformes à vocation internationale. C'est vraiment un enjeu important dans le cadre des transitions urbaines, notamment lorsqu'on soulève cet élément contradictoire des politiques d'aménagement durable avec cette déclassification des zones d'activité économique. On parle de centaines de milliers de mètres carrés sur l'Île-de-France, sur Rhône-Alpes, de zones d'activité qui ne sont plus considérées comme zones d'activité économique dans les documents d'urbanisme. Donc, ce qui repousse plus loin encore les zones d'activité économique pour faire du logement. Mais en même temps, on contredit là l'un des objectifs importants qui est de réduire le mouvement pendulaire, de réduire le trajet emploi-logement. Et donc, on voit là quand même un sujet qui reste un impensé, comme nous le dit Gilles Novarina, qui était un impensé pendant très longtemps des réflexions urbaines et architecturales. Il faut se réinvestir sur ce sujet. C'est à ça qu'aident évidemment ces webinaires. La requalification durable des zones d'activité existantes constitue un enjeu d'importance. C'est ce que nous venons de dire. C'est Hélène Peskin qui nous le rappelle. On continue toujours aménagement avec les ZAN. Et zéro artificialisation nette, ce cri du cœur de Denis Giroux, qui est le directeur général de l'EPFA, l'établissement public foncier d'aménagement Guyane, qui nous dit « à aucun moment les données d'outre-mer et Guyane n'ont été prises en compte », avec des chiffres qui inquiètent sur la capacité, en tout cas, d'avoir des études d'impact fiables dans le débat parlementaire. Il nous dit « le taux d'artificialisation des sols en Guyane est de 0,01% contre 9% en métropole. La Guyane est couverte à 95% de forêts », déclare à News Tank Denis Giroux. C'est à retrouver sur News Tank Cities. Vous pouvez aussi retrouver sur News Tank Cities une actualité sur laquelle je vous propose de passer un peu de temps, en tout cas dans votre lecture. C'est le temps de réflexion nécessaire pour aborder avec un petit peu d'expertise réelle l'urbanisme transitoire. Le temps du portage foncier est l'occasion de créer de la valeur, nous dit Laurent Bailly, qui est directrice générale de l'établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais, dans le cadre d'une vision conférence couverte par News Tank Cities. Donc, c'était avec le laboratoire d'initiatives foncières innovantes, LIFTI, le 11 mai. C'est passionnant. Voilà, donc un retour sur différents exemples d'utilisation temporaire de friches, plans de végétalisation sur les anciens sites de tissage textile de Waterloo, par exemple, qui a été lauréat du prix du génie écologique en 2018, l'installation de pépinières temporaires sur le site de Québecor à Lille-Hellem, l'accueil des migrants au château de Carme à Trélon, et Roubaix, l'ancien site d'une banque, qui est un laboratoire aujourd'hui de ce que pourrait être l'usage transitoire sur de courtes durées. L'EPF, je le rappelle, a lancé un appel à projet pour l'occupation temporaire du bâtiment de 4400 m² dans le centre-ville de Roubaix et qui a été clôturé en février 2021. On attend les lauréats avec impatience. C'est à retrouver sur News Tank Cities. On continue. Urbanisme transitoire, aménagement, artificialisation nette et bien évidemment énergie et l'objectif de 50 millions d'euros de projets photovoltaïques financés par les entreprises d'ici 2023 pour les entreprises par EDF, énergie nouvelle, renouvelable. L'objectif, il est de porter cela à ce niveau-là avec un détaillé de montée en charge que vous pouvez retrouver dans nos colonnes traitées par nos vaillants rédacteurs et rigoureux journalistes, de la même façon que l'on suit l'actualité aujourd'hui de Inly, qui faisait un point d'étape, bilan, produire par l'étalement urbain et contradictoire avec les enjeux climatiques. Benoît Apparu sait de quoi il parle pour cet opérateur filial d'Action Logement présent en Île-de-France et qui donne des chiffres ambitieux, positifs, car dans le cadre de son objectif global de produire 80 000 logements intermédiaires nécessitant un investissement estimé à 18 milliards, Inly a créé deux foncières de développement avec des investisseurs institutionnels afin de mobiliser des fonds propres extérieurs. APEC Résidence et Chronos permettront de financer 2200 logements par an en plus du développement d'Inly. C'est à retrouver sur News Tank Cities. Grand projet, décidément, le sud-ouest à l'honneur. Gare Nîmes, Pont du Gard, 8000 m² de panneaux photovoltaïques couvrant les parkings de stationnement. C'est efficace, ça fonctionne. Production de l'équivalent de la consommation électrique de près de 700 foyers en moyenne, 1,91 million de kWh par an. Mise en service des ombrières en avril 2021. On est sur des parkings couverts sur 550 places, sur 750 places. Voilà un usage intelligent. L'installation photovoltaïque des ombrières de la gare a été lauréate de l'appel d'offres de la Commission de la régulation de l'énergie, la CRE, en juin 2019. Elle est certifiée par le label Bâtiment durable Occitanie. La gare Nîmes-Pont du Gard participe à l'amélioration du mix énergétique territorial en réinjectant l'électricité excédentaire produite dans le réseau électrique national d'Enedis. Et la consommation d'énergie des locaux de service de la gare est inférieure à plus de 30% au niveau réglementaire. Selon l'AREP. C'est passionnant, c'est efficace. Énergie, environnement, transition, le Shift Project qu'on ne présente plus, hein, et son président Jean-Marc Jancovici, le directeur Mathieu Ozano, on les suit, c'est passionnant. Ça soulève souvent de grands débats, résilience des territoires. C'est le document intermédiaire, on est heureux de l'avoir obtenu et de vous le mettre à disposition. Résilience des territoires, 4 recommandations pour bâtir une stratégie locale. C'est à retrouver sur News Tank Cities. Le document est en ligne et téléchargeable. Logistique. Le plan national pour la cyclo-logistique en ville en lien avec le dispositif Colis Active. Favoriser les livraisons, mobiliser les parties prenantes, faciliter la cyclo-logistique en ville, développer l'innovation urbaine et l'open data pour la livraison du dernier kilomètre. Nous reviendrons dans les semaines qui viennent, en plus de cette actualité fracassante, sur aussi les établissements de logistique intermédiaire, les espaces de logistique intermédiaire, car qui dit livraison du dernier kilomètre ? Dit ELI, qui dit ELI dit aussi grande surface logistique, et on voit là aussi, comme nous l'avons vu pour les zones d'activité économique, certaines contradictions entre il faut de la logistique, on veut les vélos, mais pas forcément la grande surface d'espace logistique ou l'ELI, et pourtant il en faut pour créer un réseau efficace et pertinent. Pertinence et efficacité, c'est aussi ce que recherche et porte, comme nous l'avons vu lors de sa première conférence, le conseil scientifique de l'École supérieure des professions immobilières, l'ESPI, que nous comptons parmi nos abonnés et nos lecteurs, et nous en sommes fiers et heureux. La dynamique des territoires vue sous l'angle juridique, économique et la diversité des solutions, c'est la thématique de la conférence organisée par le Conseil scientifique le 20 mai à 14h, lien d'inscription sur News Tank Cities. Réseau ProCivis, CGEDD, UNAM avec l'excellente Nicolas Touvenin, France Stratégie, tous ces acteurs sont mobilisés dans la perspective de cette conférence. Pour conclure, architecture, deuxième prix international de transformation de bureaux en logement. C'est à retrouver sur News Tank Cities. Vous pouvez aussi retrouver l'excellente, et nous sommes heureux de le retrouver, tribune d'Yves Lafoucrière sur les opérateurs HLM. Deux atouts majeurs dans leur partenariat avec les territoires. Il revient sur Action Logement, il revient sur la désertification et la paupérisation des centres, l'habitat insalubre, les établissements publics fonciers. C'est cette vision experte, mais à 360 degrés, de Yves Lafoucrière qu'on affectionne tant chez News Tank Cities. Il nous parle de l'éco-réglementation. Il traite de la coordination avec les collectivités locales, l'enjeu des zones tendues, l'accession à la propriété. C'est passionnant, une tribune à avoir sur sa table de chevet. Table de chevet, toujours avec The Boson Project et l'impact immobilier et territoriaux des mutations du travail sur les tiers-lieux. The Boson Project, qui est mandaté par la Banque des Territoires, Nexity et sa filiale Morning. Nexity et The Boson Project qui ont signé un partenariat pour apporter des solutions d'accompagnement à la transformation des entreprises. Nous en étions fait l'écho en juillet dernier. il faut véritablement lire ce qu'ils font. C'est pour capter les tendances, quelque chose d'incontournable. Il ne faut pas se cacher, il y aura un coût financier à ce qui est en train de se passer. Le télétravail est devenu une réalité. Si la moyenne générale dépasse 2 jours par semaine dans les entreprises, nous entrons dans un autre monde, dit Jean-Claude Bastien, directeur général de Nexity Solutions Entreprises. Enfin, et pour finir, je vous dis à la semaine prochaine, en espérant que ce rappel, évidemment non exhaustif, mais sur les articles les plus marquants de l'actualité de News Tank Cities la semaine dernière, vous a plu. Vous pouvez retrouver évidemment l'ensemble de ces informations, je vais y arriver, de façon plus ample et détaillée sur notre plateforme ou sur l'application dédiée, surtout évidemment les systèmes Android, iOS, Apple. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous, de plus en plus de lecteurs. Vous êtes plus de 2000 à suivre ce podcast régulièrement. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires. Je vous souhaite une belle et heureuse semaine et tout ce que l'on peut souhaiter de meilleur en cette période de déconfinement, restez prudents.